Eh bien voilà, j'aime bien d'être devant vous. Je ne reviens pas. Alors, c'est toujours un plaisir d'être devant et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Alors, on a allumé la première bougie de l'Avent. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire l'Avent. Alors, l'Avent, c'est le début du mot « aventure ». C'est l'aventure de Noël. Et Noël, c'est la venue de Jésus sur la terre. Donc, Dieu, comme je l'ai dit hier à quelqu'un, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même pour que chacun d'entre nous puissions l'accepter comme le sauveur du monde et aussi le roi des rois. N'oubliez pas que quand Hérode a vu les mages, donc les sages d'Orient arriver, il a eu peur parce que on avait annoncé un autre roi que lui. Alors que lui, il était le roi nommé par les Romains. Alors, c'est une chose extraordinaire, c'est que quand on fait des voyages, comme j'organise, je fais un peu de pub tout le temps, hein, faut m'excuser, c'est un peu comme les chaînes de télévision, hein. Quand on fait un voyage en Israël, eh bien, on a l'occasion d'aller à Bethléem et aller voir la basilique. Bon, c'est pas le plus important, mais on va dans un endroit qui s'appelle Beth Shaour, qui est le champ des bergers. Et là, avec les groupes que j'ai conduits jusqu'à présent, que Dieu m'a permis d'avoir comme brebis à diriger, eh bien, on chante des chants de Noël. Que ce soit au mois de mars, que ce soit au mois de septembre, octobre, eh bien, là, c'est le chant des bergers qui remonte vers le ciel, et c'est là que les anges sont venus annoncer que le Sauveur du monde était venu. Alors, je ne veux pas critiquer qui que ce soit ou quelque religion que ce soit, mais j'ai entendu quelque chose hier qui m'a effaré. Des choses que, bon, j'apprends toujours des choses nouvelles. C'est que au Vatican, il y avait jusqu'à présent, mais pas beaucoup de monde le savait. Il y avait un morceau du bois de la crèche de Jésus. Et ce morceau de bois, c'est quelque chose qui est mis à l'adoration des chrétiens catholiques romains, a été transféré du Vatican jusqu'à Bethléem. Donc, pour que ça réintègre l'endroit où Jésus est né. Je crois que c'est dommage de faire cela, de mettre à disposition des gens qui sont crédules des choses. Il faut le voir pour le croire. Je suis allé plusieurs fois en Israël et je suis allé une fois au Saint-Sépulcre et des gens se jettent sur la pierre où on a dit que Jésus avait été mis pour être embaumé. Et les gens, que ce soit des prêtres, des évêques, j'ai vu, hein, ils embrassent la pierre, ils font le signe de croix, ou bien vous avez dans la crypte à Bethléem, de l'église de la Nativité, vous avez une petite étoile. Et on vous dit que c'est là que Jésus est né, et des gens mettent leurs mains là, et on embrasse, on fait des vénérations qui sont tellement, pour moi, choquantes, parce que ce que Dieu a fait, il a fait par amour, il n'a pas fait pour que nous mettions notre adoration. Et de tout temps, il y a eu ces vénérations-là. D'ailleurs, quand les archéologues font des fouilles, la première chose qu'ils trouvent, ce sont des ex-voto, des statuettes qui ont servi à l'adoration des dieux. Et c'est comme ça qu'on peut voir que dans les civilisations antiques, il y avait des cultes à différentes entités célestes, hein, que ce soit le dieu soleil, le dieu lune, le dieu scarabée, le dieu chat, le dieu chien, le dieu serpent. Et tout ça, ce sont des choses qui reviennent. Je ne sais pas si vous faites attention, mais il y a tellement de choses qui reviennent, hein. Des choses anciennes qui ont été bannies, qui reviennent. Et les chrétiens plongent là-dedans sans se rendre compte qu'ils font des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Par exemple, je sais que certaines écoles catholiques, pour avoir de l'argent, eh bien, ils ont restauré Halloween parce que ça fait une rentrée d'argent et on fait n'importe quoi, alors que c'est la fête des sorcières. Qui dit sorcière dit occultisme. Et dans le livre de Deutéronome, il est écrit que on ne trouve personne chez toi qui pratique de l'occultisme, ni qui lise les horoscopes. Avis aux chrétiens qui auraient tendance à lire ou écouter des horoscopes. Vous savez, en parlant d'horoscope, là, il y a une chose qui m'avait fait rire une fois, c'est que si un détenu d'une prison quelconque lit son horoscope et que ce jour-là, il est écrit « Vous avez besoin d'évasion », hein, ça fait un peu rire, mais c'est comme cela. Est-ce que nous avons le droit de vivre comme les autres? Nous devons être un peuple mis à part. Un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple purifié. Et ça ne se trouve pas sous le paillasson, ça ne se trouve pas derrière une porte. La seule porte qu'il faut ouvrir, c'est la porte de notre cœur. Et ce matin, je voulais vous parler d'un personnage. On a déjà certainement parlé de ce personnage, c'est Gédéon, donc en hébreu c'est Gidon, qui veut dire quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est bien stable. Je vais enlever mes lunettes, mettre les autres pour lire un petit peu ce que j'ai écrit, parce que d'habitude je ne lis pas, mais... Et avant, je voulais lire un verset. C'est le verset 11 et 12. Le livre des Juges, au chapitre 6, les versets 11 et 12. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Chapitre 6, versets 11 et 12. Donc le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et ce que je voulais souligner ce matin, c'est que nous devons être des vaillants héros. Alors, si on fait la liaison, moi j'aime mieux d'être un vaillant héros que des vaillants zéros. Hein. Si on fait la liaison, c'est pas toujours beau, hein, les liaisons. Mais nous devons être quelqu'un, nous devons être ce que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Alors je reviens un petit peu en arrière, hein, et je vous conseille de lire le livre des juges, parce que c'est un livre qui apporte beaucoup. On y voit des batailles, hein. Alors quand j'étais gamin, mes parents sont devenus chrétiens quand j'avais 10 ans, et j'ai commencé à lire la Bible quand j'avais 10 ans, et la chose qui me passionnait, c'était le livre de Josué, Juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois et les chroniques. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de batailles. Et ces batailles-là, c'était des batailles qui étaient des batailles de l'Éternel. C'était pas des batailles qui étaient faites pour n'importe quoi, n'importe comment, c'était des batailles de défense. Israël, donc l'État hébreu, a toujours dû se défendre. Et il a dû se défendre contre les peuplades aux alentours. Alors, la prochaine fois que vous viendrez en Israël, hein, eh bien, je vous montrerai dans le désert du Négev, les différents déserts par où Moïse est passé avec le peuple d'Israël, par où Abraham est passé, et puis on va aller vers la frontière en bateau, hein, on fait un tour en bateau, on va jusque la frontière de l'Arabie Saoudite, et le peuple de Madian se trouve à partir de la frontière entre Aqaba et la frontière l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est la région de Madian. Et on doit se rappeler que Moïse est allé dans le pays de Madian. D'ailleurs, c'est là qu'il a trouvé sa femme. Et quand il est arrivé dans le pays de Madian, eh bien, son beau-père, Jéthro, était un haut dignitaire des Madianites. Donc jusque-là, il n'y avait pas tellement de disputes. Hein. Et Moïse est mort. Après Moïse, il y a Josué. Et la Bible dit que le peuple a vécu en paix, une paix plus ou moins relative. Et c'était quelque chose de bienfaisant. Chacun faisait ce qui lui plaît, ce qui lui semblait bon. Donc, quand on est un peu dans la paix, au bout d'un certain temps, il y a l'oisiveté qui arrive. Parce que on se dit, mais on ne peut pas rester tout le temps sans rien faire, toujours vivre tranquille avec le voisin. Puis, les disputes commencent à arriver. Et le peuple a commencé à faire comme tout le monde. Il s'est détourné même de Dieu. Et ils ont suivi d'autres divinités. Et même, ils ont adopté les divinités des peuples qui les entouraient. Hein, je viens de parler des Madianites. Au-dessus, il y a les Édomites. Il y a d'autres peuplades qu'on voit dans la Bible. Et tout cela, c'était toujours en relation avec la Palestine de l'époque, le peuple de Canaan, le pays de Canaan. Enfin, je dis Palestine, c'est le pays de Canaan. Et il y avait chaque fois des incursions. Et alors, Dieu a envoyé des libérateurs. Et quand on regarde au début du livre des Juges, on voit que Dieu a envoyé un certain Othniel, un autre Ehud, un autre Shamgar, et même, il a envoyé une femme, Déborah. La petite abeille, hein. Déborah, c'est la petite abeille, qui volait et qui a libéré le peuple de la servitude. Il y a eu aussi Barak, qui s'est allié avec Déborah, pour les délivrer du peuple de Madian. Les Madianites étaient un peu des disputeurs, pour un oui, pour un non, et c'était la coutume de l'époque. Hein. Je ne sais pas si vous aimez l'archéologie, mais il faut faire des recherches quelquefois pour un peu comprendre le pourquoi des batailles. C'est que quand Israël, par exemple, le peuple hébreu, labourer le champ, eh bien, quand c'était bien poussé, hein, que c'était presque le moment de la récolte, eh bien, toutes ces peuplades, les Édomites, les Madianites, partaient de leur endroit et ils allaient saccager toutes les récoltes pour affaiblir le peuple. Et ça allait loin, hein. Donc ici, quand on regarde les dans le chapitre 6, on voit que les Madianites partaient de Madian, donc de leur région, jusqu'à la bande de Gaza. Hein. Alors, écrire, c'est vite fait. Hein. On met Madian, Gaza, et on y est. Mais quand on regarde sur la carte, hein, souvent, je dis aux gens, quand vous lisez la Bible, à la fin de votre Bible, il y a souvent des cartes. Ayez la curiosité de voir, de regarder les distances. Hein. Par exemple, on dit que Abraham est parti de Ur en Chaldée et qu'il est arrivé à Beersheba. Hein. Bon, c'est combien de kilomètres? Mais il a fait un périple. Hein. Il est monté par toute la Mésopotamie. Il est monté à un endroit qui est presque la Turquie maintenant. Puis il est descendu par le Liban. Hein. Il est arrivé presque à la mer Méditerranée, au niveau de Gaza. Hein. Donc, on voit que c'était des marcheurs. Ils faisaient beaucoup de kilomètres pour écouter la voix de Dieu, pour Abraham. Et ici, les Madianites faisaient du ravage. Et on voit que Gédéon était dans l'ère de le pressoir. Le pressoir à vin ou le pressoir à huile, hein, ils étaient souvent l'un près de l'autre. Et pourquoi est-ce que ils devaient être au pressoir pour faire leur réserve de farine, justement pour être cachés des Madianites de toutes ces peuplades qui venaient pour venir saccager, ravager. La fin du chapitre 5, le dernier verset, il est écrit « Le pays fut en paix pendant 40 ans. Hein, » après que Déborah et Barak aient fait le nettoyage ethnique dans la région, eh bien, le peuple restait 40 ans. C'est un bail, hein. Vous savez que Moïse a vécu 3 fois 40 ans, hein. Une 40 ans en Égypte, 40 ans dans le pays de Madian, et 40 ans dans le désert avec un peuple qui avait décidé de râler tout le temps. Hein? J'espère que nous ne sommes pas des râleurs, je crois pas. Bon. Ben, pas beaucoup. Le chapitre 6 commence par dire que les enfants d'Israël ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, ça m'a fait rappeler une chose, c'est que, je vous ai dit, j'avais 10 ans quand mes parents sont devenus chrétiens, donc j'ai commencé à aller à l'église. Et puis, on commence à faire un petit peu ce qui nous plaît. Hein, parce que, qui dit évangile de liberté. Et avec cette liberté, on peut faire un peu n'importe quoi. Et puis, ce sont les copains. Mais, j'ai été à bonne école, et mon père m'avait dit que pour être heureux, je devais choisir mes amis. Et c'est ce que j'ai toujours fait, même jusque maintenant. J'essaye de voir avec qui je peux collaborer en amitié. Pendant 7 ans, donc après, c'est comment les 40 ans, le peuple fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et pendant 7 ans, les enfants de Madian ont détruit les cultures d'Israël. Il se fait aussi que les batailles, puisque je reviens à ça, permettaient aux peuplades qui partaient d'un endroit vers l'autre, c'était de gagner des terrains. Et quand on parle des rois, hein, des rois de certains pays, des Moabites, des Édomites, etc. C'était pas des peuples comme la Belgique. Il y avait un roi, mais c'était peut-être le roi de Liège. Hein, le territoire était grand comme Liège. Et alors, quand ils partaient, eh bien, c'était pour faire le grand Liège. Hein, ils agrandissaient leur territoire. Mais il faut dire que à un moment donné, ils en ont eu marre, les Israélites, de toutes ces mauvaise attaque ennemie. Et le verset 7 nous dit une chose. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Combien de fois est-ce que Dieu nous parle à travers des prophètes? Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Là, ce serait une autre chose, une autre étude, hein, parce que ça demande réflexion. Qu'est-ce qu'un prophète ici? Il y a un prophète qui est venu, on ne sait même pas qui c'est. Donc, il y a des prédicateurs, parce qu'un prophète, c'est un prédicateur venant de la part de Dieu, qui remet un peu les pendules à l'heure. Et dans le message de ce prophète, il y a 7 points qui sont déterminés. Hein, je vais pas, c'est pas des points d'un quart d'heure chacun. Hein. Ce sont des points que nous allons lire. Et le verset 8. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Il parle du salut. Le salut qu'il a donné au peuple d'Israël. Je vous ai fait sortir du pays d'Etsraïm. Hein, donc en hébreu, le mot Égypte, c'est Etsraïm. Donc c'est le territoire du péché, de l'abomination. Hein, en Égypte, ils adoraient beaucoup de choses. Hein, ils adoraient des dieux avec des têtes d'animaux. Voilà. C'était toutes ces divinités-là. Il parle aussi de liberté. Au verset 9, je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Il parle aussi de la délivrance qu'il a promise. Je les ai chassés de devant vous, au verset 9. Il dit au verset 10, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez rien. Donc, Dieu est un Dieu protecteur. Au verset 9, je reviens, il dit, je les ai chassés de devant vous. Il a donné sa victoire sur les ennemis. Je vous ai donné, le point 6, c'est la promesse de l'héritage. Je vous ai donné leur pays. Et le 7e point, c'est la promesse de la présence divine, suprême ressource. Vous ne craindrez pas leur Dieu. Alors, ça c'était, bon, c'est vite dit, hein, c'est vite dit, mais ça c'était concernant le peuple d'Israël. Maintenant, je fais un parallèle avec nous, en tant que chrétiens, en tant que futurs enfants de Dieu, en tant que chercheurs de la volonté de Dieu. Dieu nous donne le salut. On a chanté, et on est dans la période de Noël. Pour le moment, il y a beaucoup de films hein, sur Noël, mais c'est plus le Père Noël, le sapin de Noël. On a même montré le grand sapin à Bruxelles. Chez vous, vous allez certainement mettre le sapin. Peut-être une petite note d'histoire. Vous savez pourquoi chez les protestants, on met le sapin plutôt qu'une crèche? Parce que c'était pour faire la différence entre le catholicisme romain, qui mettait le petit Jésus, hein, qu'on mettait à minuit, et le fait que l'arbre était illuminé et c'était un arbre de lumière. Donc la différence, quand vous mettez le sapin, sachez que ça peut être une gloire que l'on rend à Dieu parce que on illumine pas seulement la pièce, mais j'espère que votre cœur sera illuminé par la présence de Dieu. Et ce petit Jésus, oh, il a grandi depuis, hein, puisqu'il est mort sur la croix, nous l'avons chanté. Il y a encore des gens maintenant, hein. Ils vont, je ne sais pas où c'est, le petit Jésus de Prague, hein, le petit Jésus de ceci, qui est dans les bras de Marie. Et alors, comme il est petit, ben, on adore la grande, hein. Et c'est dommage. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Est-ce que nous sommes prêts à avoir le salut que Dieu a envoyé sur la terre? De dire tout ce que nous voyons au sujet du Père Noël, qui est une invention, je ne sais pas de quel siècle, mais ne nous attachons pas à des choses. Bon, si maintenant vous voulez m'offrir un jouet, je dirais que ça vient du Père Noël, hein, pas un jouet, un beau cadeau, j'aime mieux ça, hein. Je veux bien admettre que ça viendrait du Père Noël, mais bon, ça n'irait pas jusque-là, parce que je rirais un petit peu, hein. Mais le salut que Dieu nous offre, c'est un salut de liberté. Nous avons la liberté, parce que quand on parle du salut, il faut parler du péché. Comme le prophète a dit, je vous ai éloigné du pays d'Égypte. Je vous ai éloigné du pays où il y avait toutes ces abominations-là pour vous donner la liberté. Et la liberté, ce sont les 10 commandements que Dieu a donnés sur le mont Sinaï. On dit toujours les 10 commandements, mais en fait, quand on prend le texte original, ce sont des paroles de liberté. D'adorer Dieu de tout notre cœur. De respecter l'autre. Si on respecte l'autre, il y a la paix qui va s'installer. Et ne pas convoiter, laisser l'autre avec ce qu'il a. Et remercier Dieu pour que les autres puissent encore avoir plus que ce que nous avons. Dieu nous délivre de ce péché qui nous encercle tout le temps, qui nous empoisonne. Et tant que nous serons sur la terre, nous serons toujours pourchassés par le péché. Le péché est entré par une seule famille, donc par l'homme, mais en grec, l'homme, c'est anthropos, ça veut dire l'être humain. C'est pas l'homme en tant que masculin, c'est le couple, Adam et Ève, qui ont péché, qui ont désobéi, et qui ont introduit le péché, et Jésus, déjà annoncé au début de la Genèse, nous délivre de ce péché. Il nous protège. Il nous protège parce que nous avons besoin de cette protection pour aller de l'avant. Si nous n'avions pas le Seigneur comme protecteur, moi personnellement, à qui irais-je? Parce que je n'ai personne vraiment sur qui pouvoir dire « Est-ce que tu ne veux pas prendre mon fardeau ?» Parce que c'est un fardeau personnel. Ce que j'ai, c'est quelque chose que je dois donner au Seigneur. Il me délivre, il me protège et il veut me donner la victoire sur mes ennemis. Et mes ennemis, en fait, c'est mon ennemi, c'est moi. Quelquefois, je me trouve comme mon pire ennemi. Parce que comme l'apôtre Paul avait réalisé, il dit, le mal que je ne veux pas faire, ben je le fais. Bon, j'espère que vous êtes comme moi, hein, ne dites pas le contraire. Donc on fait souvent des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et la victoire que Dieu veut donner, c'est justement de combattre cet ennemi et d'aller en profondeur. Et quand nous parlons du Seigneur autour de nous, n'ayons pas peur de dire « Jésus est ressuscité pour notre justification. Il nous a enlevé nos péchés. Il les a cloués sur la croix. J'espère que vous en êtes convaincus, enfin ceux qui ont accepté le Seigneur. Il y a des personnes ici, des personnes qui sont à la recherche d'une vérité purificatrice. Ils en sont à un point où le Seigneur commence à faire son chemin. Il a déjà fait peut-être un grand chemin, mais il veut continuer. Et il nous promet son héritage. L'héritage que Dieu nous promet, c'est d'être héritier et co-héritier avec Christ pour l'éternité. Dans tous les chants que nous avons chantés, c'est justement ça, hein. C'est l'héritage. Vous savez, quand on a un héritage de nos parents, c'est un héritage passager, qui est tellement vite dépensé. Mais l'héritage que le Seigneur nous donne, c'est un héritage qui va jusque l'au-delà, qui va jusque dans l'éternité. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. Parce que si le Seigneur fait vraiment son travail dans notre vie, il va le faire, je veux dire, à 100%. Et c'est nous qui, quelquefois, nous doutons. Hein. Nous doutons de ce que le Seigneur a vraiment fait dans notre vie. Un petit peu comme Satan, hein, le serpent séditieux, hein, au début, quand il est arrivé tout près de Ève, et il lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu crois que tu as bien compris? On te parle de liberté, mais fais ce que tu veux. Ça, c'est la liberté. La liberté de chuter. Parce que la première chose qui va arriver, c'est une pierre d'achoppement. C'est pas seulement un petit caillou, ça peut être un gros rocher sur lequel on va trébucher et on peut se faire mal. Et après, on va faire comme le peuple d'Israël. Seigneur, je suis bien en peine, je suis tombé, relève-moi. Et ça répond bien à ce que la Bible dit, hein, que celui qui croit être debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Alors, quand vous êtes en trop grande sécurité, dites-vous, est-ce que je suis bien accroché au Seigneur? Est-ce que le Seigneur, je lui tiens la main? Ou bien je lui tiens le petit doigt, hein, par la pointe des doigts, hein. Mais on glisse vite, hein. Et on croit qu'on tient sa main. Mais non. La main du Seigneur, c'est celle qui nous empoigne et nous fait passer de la mort à la vie. Je ne voulais pas en parler, mais ce matin, j'avais ça sur le cœur. Michael est à la présidence ce matin et ça me fait beaucoup de plaisir parce que derrière Michael, il y a toute une histoire. Oh, je ne vais pas raconter une histoire l'histoire de Michael, parce que je ne connais pas sa vie, je connais juste Michael comme ça. Mais, dans les années 1970, j'ai travaillé dans une entreprise à Roucourt, et j'avais une collègue qui s'appelle toujours Liliane, et le Seigneur m'avait appris. Il y avait quelques années que j'étais chrétien, j'étais jeune chrétien, et le Seigneur m'avait déjà appris de prier pour les autres et de ne pas considérer les autres comme étant au-dessus, comme plutôt moi étant au-dessus des autres, mais que les autres soient au-dessus de moi. Et alors, j'ai eu à cœur de parler de l'évangile du Seigneur Jésus à Liliane, qui connaissait Jésus, hein. Vous savez, elle connaissait l'histoire de Noël, l'histoire de Pâques, beaucoup d'histoires de la Bible, mais je lui ai offert une Bible. Elle s'est tournée vers le Seigneur, puis on s'est perdu de vue, Et j'ai retrouvé Liliane qui était mariée et qui avait deux enfants, deux garçons, Michael et Alexandre. Je me suis pas trompé. Et puis, j'ai continué à voir la famille, bon, épisodiquement, parce que je ne suis pas, je ne m'incrustais pas, hein. Mais j'ai suivi la famille. Et puis, j'ai vu que Michael s'était engagé pour le Seigneur et que son frère aussi se sont engagés dans leur église personnelle. C'est beau de voir que il y a 40 ans, plus de 40 ans d'ici, il y a un travail qui a été fait et on peut en voir les fruits. Maintenant, je ne dis pas que nous devons tous aller voir des gens en disant « Est-ce que je vais voir leur progéniture se tourner vers le Seigneur ?» Mais je sais que dans la famille de Michael et d'Alexandre, il y a la parole de Dieu est à l'ordre du jour. Et que les enfants ont déjà puisé à la source d'eau pure. Et j'espère qu'ils vont se désaltérer et grandir et amener aussi d'autres personnes afin que la promesse, ça c'est le septième point, la promesse de la présence divine suprême, qui est la suprême ressource que nous devons avoir, puisse continuellement nous guider. La présence divine, la présence du Seigneur journellement. Maintenant, je ne veux pas faire le malin. La première chose que nous faisons en nous levant, est-ce que c'est dire, Seigneur, merci, je te remets cette journée. Ou bien est-ce que nous allons d'abord déjeuner parce que nous avons l'estomac creux? Est-ce que nous allons d'abord faire certaines choses que nous avons en priorité? Ou bien est-ce que, comme Jeanne d'Arc l'avait dit, Maître Dieu premier servi. Maître Dieu premier servi. Dans notre vie, nous ne devons avoir que un seul. Alors, on voit souvent les gens qui lèvent le doigt, hein. Mais vous savez, les musulmans aussi, hein. J'ai vu des Palestiniens qui levaient le doigt, et c'est pas Jésus qui mettait comme le roi, hein. C'était le prophète Mohammed. Mais nous devons avoir un seul maître à bord. Je suis un amoureux de National Geographic, hein, à la télévision. Bon, je regarde pas tout le temps, hein, mais je regarde quelquefois des gros bateaux qui partent à travers les océans. Et quand ils arrivent près du port, eh bien, le commandant doit laisser sa place au pilote. Et alors, j'ai vu dans certains gros bateaux, il y a deux pilotes qui montent. Un pilote pour guider jusque dans le port, et le deuxième pour aller jusqu'à l'emplacement, jusqu'à la place qui est réservée au bateau. Sans ces pilotes, personne ne peut entrer dans le port, parce que c'est eux qui ont fait le chemin et qui connaissent le chemin d'avance. Est-ce que nous avons Jésus comme souverain pilote qui nous conduit jusqu'au port parce que lui, il sait, d'ailleurs c'est dans les évangiles, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il sait ce que vous pensez avant que ça ne vienne dans votre cœur. Déjà, ce que vous pensez, Dieu le sait. Et il veut aménager votre trajet jusqu'à ce que vous ayez cette assurance du salut, cette liberté d'avancer avec lui, d'être délivré de votre péché, d'être protégé. Nous avons besoin de protection, hein. Nous avons besoin du bouclier du salut. Lisez dans Galates, vous allez voir les armes que nous avons besoin, l'épée, hein. Nous avons besoin du casque. Nous avons besoin des chaussures pour avancer dans la bataille, afin que nous ayons la victoire sur notre ennemi. Je vous ai parlé d'un ennemi, c'est nous, mais quelquefois, nous sommes influencés par les diverses choses de la vie. Et quelquefois, les gens que nous côtoyons font peut-être de l'occultisme, nous ne le savons pas. Mais ces gens-là sont néfastes pour nous. Demandons à Dieu de nous trier nos amis, de trier les personnes avec qui nous sommes, afin que nous voyons vraiment la victoire et que nous ayons cet héritage qui a été promis par Dieu. Et que la présence du Saint-Esprit soit sur nous. Le souffle de Dieu doit nous permettre de parler. Notre Père a envoyé le Christ, donc la parole, pour que nous la proclamions, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, le souffle, pour parler de sa part, eh bien nous sommes des gens stériles. Je rencontre tellement d'autres choses à raconter sur l'histoire de Gédéon, mais c'est jusque-là que je voulais aller, c'est que notre libération du pays d'Égypte, de toutes ces idolâtries, vous savez, quand on aime bien un chanteur, il devient notre idole. Moi, j'ai un chanteur favori. Ça n'a jamais été mon idole. Pourtant, j'allais dire que je l'idolâtre. Non, c'est pas vrai. Je l'aime beaucoup parce que c'est celui qui m'a aidé à m'approcher de Christ. Et un jour, je l'ai rencontré à Londres et je lui ai dit que c'était grâce à lui que j'avais accepté le Seigneur. Et alors, il s'est réjoui. J'étais avec un pasteur qui m'avait introduit, et c'était une joie réciproque. Moi, de rencontrer la personne que j'aimais beaucoup, et lui, de rencontrer quelqu'un qu'il allait revoir au ciel. Ce n'est-ce pas magnifique? Et moi, en tout cas, je vous convie, je vous invite à accepter le Seigneur dans votre vie, dans votre cœur, afin que quoi que ce soit que nous fassions, nous puissions le faire pour aller de l'avant. Témoignons du Seigneur autour de nous. Écoutez, le mois de décembre est le mois perche. Je dis le mois perche. Parce que nous allons entendre Noël. Qu'est-ce que c'est Noël? Qu'est-ce que c'est Noël? Noël, Noël, Noël. Vous savez, ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Léon. Et c'est l'anagramme de Noël. Prenez Noël, vous le mettez à l'envers, c'est Léon. Voilà. Un témoignage, Léon. De parler de Noël. Et nous devons pas avoir peur. Quand vous voyez les gens qui parlent de leur club de football, oh, il n'y a pas de mot assez grand ou assez fort pour en parler. Est-ce que nous pouvons parler de notre Seigneur Jésus avec des beaux mots? Est-ce que nous pouvons le mettre le plus haut, number one, le premier au palmarès de notre vie? Je souhaite que chacun, nous puissions en arriver là. Et dire, Seigneur, c'est toi que je veux placer au-devant de ma vie. Et je veux te remettre chaque chose afin que toi, tu puisses être honoré par ma vie. Que ma vie soit une fleur dans le bouquet de toutes les fleurs qui sont ici. Amen.
Amen.